Le Frénois présente Panorama 12, une édition intitulée cette année Soft Machine, 50 heures, 50 artistes. Je vous propose d'aller à leur rencontre.
Donc alors je m'appelle Jacques Leuil, j'ai 27 ans, je suis en deuxième année au Frénois, j'ai développé un projet cette année qui est, disons, un road movie documentaire interactif. Et donc c'est un documentaire dans lequel on peut naviguer tactilement et qui en fait présente des séquences qui traitent de la défense nucléaire américaine. Et donc en fait, spécifiquement dans la défense nucléaire américaine, ce qui m'a intéressé, c'était de filmer tous les endroits qui étaient liés au tourisme. Autour des équipements de défense, des silos de missiles, des musées, même ça va jusqu'aux tables de pique-nique, les déserts où ils testent les armes.
Quelle est votre motivation ?
Bon, je venais des Beaux-Arts et j'avais développé un travail d'artiste plutôt à la limite entre la vidéo et le documentaire sur la mythologie et le folklore aux États-Unis. Donc en fait, c'était à la fois le folklore aux États-Unis, j'ai envie de dire aux États-Unis, mais aussi le folklore américain en dehors des États-Unis, comme si c'était une sorte de un peu diaspora culturelle et un peu imaginaire. Enfin, disons, tout ce qui est influencé par la culture de masse américaine, mais c'est-à-dire le cinéma, la musique, enfin la culture pop essentiellement, quoi.
Donc d'un point de vue technique, vous avez travaillé avec l'Université de Lille 1 ?
Voilà, oui. Alors, le programme a été développé par Samuel Degrande, qui est en fait ingénieur informaticien à l'IRSICA. Donc l'IRSICA, c'est une branche de l'université qui développe de l'informatique. Et donc, il fait partie d'un laboratoire qui travaille sur, en fait, les nouvelles interfaces. Donc c'est soit tactile, soit en relief, en 3D. Donc en fait, il y avait une réflexion aussi sur des gestes plus ou moins naturels, voir si on pouvait se passer d'un langage. En fait, ça sous-entend lutter contre les gestes qui ont été imposés par Apple ou des choses comme ça. Donc on a un peu réfléchi à ça. Et on a trouvé des choses intermédiaires, mais c'est vrai que ça a une influence. Enfin, aujourd'hui, notamment au niveau de la tactilité, Apple a quand même imposer une sorte de langage et de réflexe, en fait. Donc dès qu'on essayait de proposer quelque chose d'alternatif, c'est arrivé que les gens comprennent pas.
Comment vous jugez ce travail, cette complémentarité et ce partenariat avec des chercheurs ?
Le partenariat, c'est sur une dimension, c'est que c'est un rapport aux technologies qui est tellement aujourd'hui complexe qu'il n'est plus à la portée des artistes, en fait. En tout cas, les artistes, leur champ de compétences, c'est plutôt des dimensions esthétiques. On leur demande de répondre à des questions esthétiques. Et donc, il y a évidemment des questions techniques. Enfin, c'est comme quand un cinéaste ne filme pas lui-même et ne monte pas lui-même ses films. Je crois que pour une installation, c'est assez naturel d'aller chercher des ingénieurs.
Est-ce que l'artiste peut booster la recherche ?
Non, je pense pas que booster ce soit un verbe que j'utiliserais, parce que je pense que l'artiste en fait peut apporter une dimension critique à des exagérations esthétiques de la société, par exemple. Mais je pense que son rôle se limite à ça.
Alors, je m'appelle Claire Paulet et je suis étudiante au Frénois en deuxième année.
Donc quand on regarde cette œuvre, en fait, on voit un gros bloc de glace.
Oui, un gros bloc de glace avec tous les livres que j'ai lus cette année qui sont pris à l'intérieur et qui ont un peu souffert. Il y en a certains qui se sont gorgés d'eau, il y en a qui se sont ouverts. Il y a quelques parties arrachées et à la fin de l'exposition, on va débrancher le tout, laisser fondre et on verra ce qui reste.
Donc des livres qui ont beaucoup souffert, vous peut-être qui avez souffert également dans votre lecture, est-ce que ça se ressent ?
J'ai pris beaucoup de plaisir.
Donc vous avez maltraité certains de ces livres, c'est ça ?
C'était...
La vengeance.
Oui, c'est pas une vengeance, c'est... Comment dire ça ? C'est voir si ça allait me manquer. C'est faire l'expérience, c'est presque de la performance finalement. Voir si un an de lecture... Si ça peut, ça fait un trou quoi, dans mes recherches, et voir si ce trou peut exister ou non.
Donc ces livres-là, pour l'instant, ils sont à proximité, mais vous ne pouvez pas les atteindre.
Exactement. En parallèle de cet objet-là, j'ai réalisé un site internet qui n'est pas présent dans l'exposition, où j'ai scanné toutes les pages que j'ai annotées. Donc il y a quand même un retour possible, il y a une mémoire, mais c'est une mémoire lacunaire parce que le livre n'est pas complet. Et que je ne peux plus les réannoter, finalement. Donc c'est aussi un temps figé sur Internet et partagé. Voilà.
Donc en fait, si j'ai bien compris, ces livres vous ont mobilisé pendant un an, vous les avez rendus prisonniers et dépendants de vous pendant un an.
Oui. En fait, j'ai l'impression que l'exposition, présenter un objet dans une exposition, c'est l'abandonner. Au regard des spectateurs, c'est lui offrir une nouvelle vie. Donc c'était ça, c'était abandonner mes recherches et les rendre accessibles aux spectateurs, mais pas complètement. Il faut qu'il y ait un effort derrière et il fallait créer un objet. Et si on a envie de relire, si on a envie de chercher, on peut ensuite, chez soi, retourner à l'intimité de ce travail de recherche qui a eu lieu avant. Mmh.
Voilà. Donc dans ce bloc de glace transparent, au moins transparent, parfois un peu translucide, tout dépend de l'angle de vision, il y a une trentaine d'œuvres, c'est ça ?
Il y a 26 livres. Enfin, c'est beaucoup de livres sur la lecture. Mm-hmm. Il y en a un particulièrement qui s'appelle « Histoire universelle de la destruction des livres mm-hmm. ». Donc moi, c'est des livres que j'ai lus pour comprendre pourquoi j'avais envie de faire ça. Mm-hmm. Et donc c'est aussi une pièce qui, elle se détruit devant nous, mais elle se définit également. Donc c'est une boucle.
Elle se détruit en combien de temps ?
Alors, en fait là, le bloc de glace va tenir jusqu'à la fin de l'exposition, jusqu'au 25 juillet. Il est maintenu, il y a une plaque à moins 40 degrés qui permet de le maintenir. Et donc le 25 juillet, on débranche et on attend.
Ça n'a rien à voir en fait avec la conservation du patrimoine de l'humanité.
C'est un jeu de paradoxe. Ici, le froid qui normalement conserve, ici, sert à détruire. Et évidemment, derrière, il y a cette idée aussi de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette culture ? Comment est-ce qu'on peut l'appréhender ?
Donc le site web s'appelle www.reserve2010.com. Bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Atsunobu Koira, rebonjour.
Rebonjour, ouais.
On s'était rencontré l'année dernière avec un projet qui était présenté en extérieur.
Oui.
Donc qui était basé sur une reconstitution symbolique d'un tremblement de terre mm-hmm. au Japon ou ailleurs.
Mm-hmm. Oui.
Et cette année, on vous retrouve sur un autre travail où l'intervention de l'homme ou sa présence interagit sur un dispositif que vous allez nous présenter.
Oui, exactement, oui, tout à fait. En fait, c'est pas très loin de la pièce que j'ai réalisée l'année dernière. Enfin, c'est toujours, il y a un rapport avec les hommes et le phénomène naturel, si vous voulez. Et cette année, je travaille sur le phénomène de poussière, de particules qui se baladent dans l'espace. Et voilà, donc en fait cette année j'ai créé une espèce de machine qui permet de récupérer les particules de spectateurs et relancer dans une autre pièce, dans un autre espace pour visualiser les particules comme telles quelles, mais sauf qu'il y a la machine qui analyse le mouvement des particules et compose le son pour le retour au spectateur.
Donc, quel est le rapport entre le spectateur qui entre et donc qui est l'élément déclenchant et les particules ? Ce sont les particules qui l'amènent ou c'est lui-même en tant que particule ?
C'est la participation du spectateur, c'est vraiment donner des particules, des poussières, de pellicules, ce que vous...
Donc, comment ça se passe une fois que le spectateur est à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'il provoque et aussi qu'est-ce qu'il voit ? Comment il vit cette situation ?
Donc, une fois le spectateur entre dans la machine, il y a un déclenchement de aspirateur et il va aspirer les particules de l'espace spectateur et il va jeter notre pièce. Et le spectateur ne peut rien faire à part de regarder. Vu que l'espace est très claustrophobique, genre 1 mètre cube, et le spectateur observe sur le vitre le mouvement des particules.
Alors, Donc le spectateur, une fois qu'il est dedans, il a un temps limité. Est-ce qu'il peut tenir longtemps ou est-ce qu'il est conseillé pour lui de sortir avant?
Je conseille de rester plus que possible parce qu'en fait, le mouvement des particules, ça va ralentir petit à petit. Et le moment qu'il n'y a vraiment pas de mouvement des particules, c'est extraordinaire. Mais vu que l'espace est assez claustrophobique, j'ai limité pour 4 minutes uniquement pour le vernissage. Mais après, c'est infini.
Mais pour entrer, sortir, ça se fait manuellement ?
Oui, ça se fait manuellement. Je voulais faire automatique, mais c'est problème d'argent.
Merci. Le problème d'argent, peut-être qu'il sera résolu l'année prochaine quand vous vendrez vos œuvres.
J'espère bien, mais en fait, oui, ça, c'est cette installation est première version de cette série. Et je compte de faire le 2e, 3e, un peu comme. Voilà. Oui, pardon.
Oui. Tu peux pas sortir ou tu peux pas écouter? Je ferme la porte pour toi.
Ok, d'accord.
Je sais pas.
Donc, l'année prochaine, vous serez sorti du Fresnois.
Oui.
Quand on sort du Fresnois, comment ça s'organise la vie professionnelle?
Je serai à la résidence de Frac de l'Est depuis octobre. Voilà, je vais continuer mon exercice artistique dans l'avenir. Ouais.
Sinon, votre rapport avec les artistes actuels japonais?
Oui.
Vous en avez?
Oh, oui, Ryoji Ikeda, oui. Je viens de rencontrer il y a quelques mois. Et, oui, oui. Mais sinon, je ne fais pas tellement attention des artistes japonais. Et voilà, oui, ça m'est égal si c'est japonais ou français ou américain. Voilà.
Il n'y a pas de courant spécifique à l'art japonais dans votre domaine?
En fait, si je pense jamais de réflexion par rapport à la culture japonaise, mais forcément, j'ai vécu au Japon jusqu'à 14 ans. Donc, je dois avoir l'influence de la culture japonaise. Et l'année dernière, c'était peut-être assez évident parce qu'il y a le tremblement de terre et tout ça. Et cette année, je pense que, en fait, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai compris, je travaille sur ce projet. Parce qu'en fait, dans la culture Japon, en fait, l'importance de vide est très importante. En fait, le vide entre les hommes, qui a une présence, vraie présence. Donc en fait, moi je voulais donner la présence de matière presque invisible, de poussière qui se balade même avec moi et vous. Et donc en fait, je pense que si je dis dans l'influence de la culture japonaise, je pense que c'est ça vraiment, donner la présence de vide. C'est voilà.